Donc la semaine dernière, j'hésitais encore sur ce que j'allais partager ce matin. Et notre frère et pasteur Jean a prêché sur la guérison. La guérison que nous avons en Jésus-Christ. Eh bien, son message m'a facilité mon choix, parce qu'il y avait un texte sur lequel je réfléchissais depuis un moment, que j'avais à cœur de reprendre avec vous un matin, un dimanche matin, et qui me semblait pour le coup à propos, parce qu'il nous parle également d'une guérison. Alors je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Et le passage sur lequel je vais m'arrêter ce matin va du verset 25 au verset 34, mais je vais le prendre quand même dès le verset 22 là, pour la première lecture, pour nous replacer aussi dans le contexte. Donc Marc chapitre 5, versets donc 22 à 34. On va le lire ensemble. Donc c'est un passage qui se trouve aussi dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu. Mais ce matin, je l'ai pris dans Marc. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Si j'avais poursuivi, on aurait eu deux guérisons, mais je m'arrête à celle-ci, à celle donc du verset 25 au verset 34 ce matin. Mais on voit quand même Jésus donc qui vient d'être sollicité par Jaïrus, un des chefs de la synagogue, pour l'accompagner jusqu'à chez lui, donc afin de sauver sa petite fille qui était sur le point de mourir. Jésus avait accepté d'y aller, il prenait la route pour qui devait l'y mener. Quand arrive cette femme sur son chemin? Une femme dans une situation qui était bien triste, affligeante. Une femme atteinte d'une maladie incurable, d'une perte de sang constante depuis 12 ans. La traduction second 21 nous parle d'hémorragie, probablement des désordres menstruels abondants, prolongés. Une maladie qu'il avait sans doute jetée dans une grande faiblesse, sous laquelle son corps devait certainement dépérir un peu à la fois, qui devait vraiment, vraiment l'affaiblir. Mais une maladie aussi, si l'on se replace dans le contexte de cette époque, qui la classait également parmi les personnes impures, comme on peut le lire dans le Lévitique, au chapitre 15, versets 25 à 27. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Cette femme souffrait donc dans son corps, mais aussi moralement, de solitude, d'exclusion des assemblées, du temple. À cause de la nature de sa maladie, elle ne pouvait se présenter sur la place publique sans s'exposer à la honte, au mépris. Et pour aller encore plus loin dans sa condition, cette maladie donc l'avait laissée aussi, le texte nous le dit, dans une situation sociale difficile parce que sans argent. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. tout ce qu'elle avait, elle l'avait dépensé chez des médecins, pour des remèdes divers et variés, mais sans succès aucun. Tant qu'elle avait quelque chose à leur donner, les médecins l'avaient probablement gardée dans l'espoir de la guérir. Mais maintenant qu'elle n'avait plus rien, elle en était au point ultime de misère et de désespoir. Son état empirait, elle n'avait ni argent ni bien pour tenter encore d'autres expériences pour essayer de se guérir. Elle était considérée aux yeux du monde comme incurable. Mais un proverbe anglais dit « L'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu ». Je vais le redire « L'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu ». Et voilà en effet que dans cette situation difficile, douloureuse qu'elle vit, cette femme entendit parler de Jésus. Et cela changea toute sa vie. Et c'est là aussi, également, qu'on peut porter un autre regard peut-être sur cette femme. Au-delà du regard d'une femme triste, pauvre, affligée, on peut avoir aussi un regard sur une femme qui est un exemple de courage, de persévérance, d'espérance et de foi. De courage, de persévérance, parce que quand même depuis 12 ans, elle en a fait des efforts pour essayer d'être guérie, pour essayer de retrouver la santé. Et là où d'autres auraient été couchés sur un lit de maladie en train de désespérer, cette femme a continué à chercher la guérison. Elle n'a pas abandonné. Pourtant, 12 ans d'épreuves, 12 ans à saigner, 12 ans de déception, 12 ans de désillusion suffisent à amener quelqu'un à ne plus faire confiance, à rendre quelqu'un sans espoir. Mais pas elle. Malgré toutes ces épreuves, elle n'avait pas perdu l'espoir qu'il existe un remède. Et ce remède, elle le croit, c'est celui dont on lui parle. Ce Jésus qui est là, à quelques pas d'elle. Elle aurait pu le voir comme un autre médecin, mais non, elle a eu foi qu'il était différent, qu'il était unique. Elle a entendu parler de ces miracles. Lesquels ? On ne le sait pas vraiment, mais comme on peut le lire dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 6, les témoignages sur les miracles de Jésus se répandaient et régulièrement toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Elle l'a sûrement entendu, tous ces témoignages, et elle crut que cela était vrai. Elle ne s'est pas laissée décourager. Sa foi a surpassé son expérience amère et elle a cru au Seigneur. Elle aurait pu aussi alors demander à quelqu'un d'intercéder pour elle, d'y aller pour elle. Ne pas avoir le courage ou la force de se déplacer pour aller le voir, de crainte d'être une nouvelle fois déçue. Mais non. Avec détermination, avec courage, elle ne s'est pas résignée à ces situations et elle a continué à croire qu'elle pouvait être enfin guérie. Elle a vu de l'espoir là où d'autres auraient désespéré. Quelque chose en elle la soutenait et elle gardait l'espoir de jours meilleurs. Et donc lorsqu'elle entendit parler de Jésus, son cœur sûrement a bondi en elle. Son espoir disait « La bénédiction est enfin arrivée. Je l'ai longtemps attendue et maintenant Dieu me l'a envoyée. La voici et je vais la saisir immédiatement. » Oui, cette pauvre femme était également donc une femme pleine d'esprit, de résolution, d'espérance et de foi. Elle avait reconnu qu'elle avait besoin d'un secours que le monde ne pouvait pas lui donner, que ce secours ne pouvait venir que de Jésus. Et elle était désormais prête à le chercher à tout prix, avec foi. Le psaume, chapitre 37, verset 5, nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le livre d'Ésaïe nous dit aussi au chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle eut foi en Christ, et elle le chercha jusqu'à venir dans la foule, nous dit le texte, par derrière et toucher son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Poussée par une impulsion de l'esprit, elle s'avança, elle s'approcha de lui par la foi. Maintenant qu'elle avait enfin trouvé le vrai médecin, elle en était sûre, elle se jeta au milieu de la foule pour le toucher d'une manière ou d'une autre. Alors est-ce qu'il suffit de le décider pour que le fait de le réaliser soit si facile ? Mais il restait encore quelques difficultés, des obstacles à traverser quand même pour réussir à toucher Jésus. Un de ces obstacles, non mentionné dans le texte, fut peut-être tout de même celui de savoir comment elle allait pouvoir payer ce médecin. Rien n'avait jamais été gratuit dans toutes ses expériences passées, donc même si elle ne souhaitait que toucher son vêtement, voire juste le bord de son vêtement, nous dit même l'évangile de Matthieu, ben peut-être que cette question traversa tout de même son esprit alors qu'elle essayait de s'approcher de Jésus, ou juste avant. Pour autant, je ne pense pas que cet obstacle fût très difficile à surmonter, parce que, de même qu'elle avait entendu parler de ces miracles, nous pouvons être sûrs qu'elle avait sûrement dû entendre aussi parler de la générosité de cet homme, de Jésus, qui avait, oui, opéré de nombreuses guérisons, mais toujours gratuitement. Et si je parle de cet obstacle qui n'est pas directement mentionné dans le texte, c'est parce que il arrive encore aujourd'hui à beaucoup de personnes de penser ou d'espérer pouvoir acheter le salut. Mais il est alors bon de rappeler que Jésus donne sa grâce sans rien attendre en retour, si ce n'est notre foi en lui. Le salut est un cadeau offert par Christ. Dans Romains, on peut lire « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains au chapitre 3, les versets 23 et 24. Dans l'Épître aux Éphésiens aussi, au chapitre 2, versets 8 et 9, on peut lire aussi « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Oui, ce remède nous est offert gratuitement. Mais un autre obstacle fut probablement aussi son sentiment aigu, qui devait vraiment être présent, constant, de sa propre indignité. Et le fait même qu'elle décida de l'approcher Jésus par derrière, non de face, le prouve, je pense. Elle s'approcha par derrière, comme indigne d'être vue. La honte de sa maladie, honte qu'elle portait depuis des années, l'empêchait d'oser demander véritablement à Jésus la guérison. Elle avait une grande confiance dans sa puissance, dans sa miséricorde, mais elle était une femme impure. Et elle avait probablement peur même de lui faire face, peur que, connaissant son indignité, il ne la repousse, ne lui interdise d'approcher, comme ce que tout le monde faisait. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 12 et 13, on voit la guérison d'un lépreux. Le texte nous dit « Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Cette femme ne pouvait pas faire pareil. Elle ne se sentait pas digne de lui parler. Elle craignait aussi de le rendre peut-être impur. Elle savait que c'était ce qui allait arriver d'après la loi juive si elle le touchait. Elle ne voulait pas le contaminer, au contraire. Mais l'esprit lui permit de ne pas s'arrêter à cet obstacle, à sa condition, à son indignité qu'elle ressentait. Et un obstacle qui est, je pense en fait, aussi en réalité une étape qui est importante dans notre chemin pour venir à Christ. Nous devons sentir notre indignité pour être sauvés. Parce que sans cela, pourquoi avoir besoin ? Pourquoi chercher un sauveur ? Et malheureusement, beaucoup de personnes dans le monde, et peut-être parfois aussi dans nos églises, ne se sentent pas impures, parce qu'elles n'ont commis ni adultère, ni meurtre, parce que leurs mensonges peut-être ne prêtent pas vraiment à conséquences, parce qu'elles n'ont pas fait de vol, des cambriolages. Les normes humaines font office de référence, remplacent la loi de Dieu. À regarder même autour d'elles, ces personnes estiment que les autres ne sont pas meilleurs. Mais Romains, dans Romains au chapitre 3, versets 9 et 10, on peut lire hein, « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Si nous nous regardons sincèrement et avec humilité à travers ce miroir qui nous a été donné par Dieu, sa loi divine, qui reflète notre véritable image, qui nous fait également découvrir la perfection de la nature de Dieu, eh bien nous verrions qu'il y a des similitudes entre la vie de cette femme et la nôtre. Nous aussi, nous pouvons essayer de nous améliorer par bien des remèdes humains, via de belles résolutions, mais tout cela ne changera rien à notre condition. Tout comme les médecins n'ont rien pu faire pour changer la condition et la santé de cette femme. Seul Jésus pouvait la guérir, tout comme seul Jésus peut nous sauver de notre situation désespérée d'homme pécheur. Alors si ce n'est pas encore le cas pour l'un d'entre vous ce matin, eh bien n'hésitez plus et décidez-vous aussi de venir à Jésus dès aujourd'hui. Le dernier obstacle sur lequel je vais m'arrêter ce matin, qui n'en est pas un des moindres, c'est la foule. D'un côté, on pourrait se dire que la foule, c'était une occasion parfaite. Elle voulait venir par derrière, venir jusqu'à Jésus discrètement. Plus il y a de monde, j'ai envie de dire, plus c'était facile de rester caché. Mais d'un autre, avancer au sein d'une foule, c'est compliqué. Ça demande des efforts pour ne pas perdre de vue déjà une personne qu'on voit de loin, pour faire un pas, pour passer devant ceux qui sont devant nous. Je pense que beaucoup, voire peut-être tous, vous êtes déjà allés à la braderie de Lille. Alors ça fait un moment que je ne vis plus, je vous avoue, parce que justement, il y a trop de foule, je trouve. Mais j'ai des souvenirs, notamment de la rue Neuve. Une rue bondée. Une rue où vous êtes là à piétiner, vous êtes pressé de toutes parts, par des gens qui vous entourent, vous avez de la difficulté pour ne pas être séparé des personnes avec qui vous êtes. Quand c'est le cas, c'est difficile de les rattraper, de les retrouver. Eh bien, imaginez alors que là, dans ce passage, tout le monde voulait voir Jésus. Tout le monde était venu pour voir Jésus. Tout le monde était autour de lui, une foule le suivait, une foule le pressait. Alors se rapprocher de lui devait sans doute paraître aussi presque impossible. En tout cas, c'était difficile. Mais ça n'a pas empêché cette femme de se frayer un chemin jusqu'à lui pour le toucher. Et comment elle y est arrivée ? En ne le quittant plus des yeux jusqu'à ce qu'elle l'ait atteint. Elle savait que la puissance de Jésus était telle qu'elle pouvait vaincre toutes les difficultés de son cas, et que le résultat ne dépendait pas de la manière dont elle allait toucher, ni de la durée même de ce contact, mais uniquement de Jésus. Toutes ses pensées sont alors tournées vers le Seigneur Jésus, c'est son unique but. Elle le voit là, c'est son seul but. Et elle a dû en fournir des efforts, je pense, pour l'atteindre. Et en voyant cela, en voyant justement ces efforts que cette femme a dû faire pour aller, ne serait-ce que toucher le vêtement de Jésus, je me pose, en tout cas en lisant le texte, je me suis posé cette question et je vous la laisse également, mais quel effort fais-je, moi personnellement, chaque jour pour m'approcher de Jésus ? Mais elle persévéra. Elle avait donc le regard toujours sur Jésus et elle a atteint son but. Elle toucha le bord de son vêtement. Et à peine l'a-t-elle touchée, elle fut guérie. Sa perte de sang s'arrêta instantanément. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La puissance, la bonté de Dieu se manifestèrent à travers Jésus, en elle, et par ce miracle, on peut voir l'œuvre parfaite de Dieu. Beaucoup de personnes touchèrent Jésus dans cette foule. Encore une fois, Jésus était pressé de toutes parts. Mais cette femme le fit en dépassant la simple curiosité de voir Jésus. Elle le toucha par la foi, par une foi véritable. Elle agit intentionnellement, volontairement, en étant persuadée que Jésus lui apporterait la guérison, malgré sa faiblesse à elle. Et c'est cela la foi qui apporte le salut. Un salut immédiat, comme cette femme a été guérie de manière immédiate. Un homme ne peut pas se trouver entre la mort et la vie. Soit on est vivant pour Dieu, soit on est mort dans le péché. Et si on est mort, on est mort. Si on est vivant, on est vivant. Mais il n'y a pas d'état entre les deux. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Et donc ce matin, je vous le redis aussi, oui, Dieu sauve. Et Dieu sauve en un instant. Il peut sauver maintenant ceux qui ne le sont pas encore. Alors n'attendez pas d'avoir essayé tous les autres secours en vain, mais si vous en avez encore, si vous n'avez pas encore cette conviction, cette foi d'avoir été sauvé, eh bien ayez foi que Dieu sauve. Et adressez-vous à lui dès aujourd'hui. Et en lui, vous trouverez alors le salut et un refuge. La suite du texte nous permet de revenir, de nous recentrer justement sur Jésus. Jésus qui était donc en train de marcher, en tout cas qui dans cette foule, donc pareil, il ne devait pas marcher très vite, mais il avançait. Quand cette femme le toucha, ce qui la guérit instantanément, mais aussi qui fit arrêter Jésus également instantanément. Il aurait pu poursuivre son chemin, mais non. La femme sentit la guérison en elle, mais dans le même temps, Jésus ne sentit pas simplement un contact, parce que des contacts, d'ailleurs, il devait en avoir beaucoup. Non. Il sentit également lui-même qu'une puissance venait de sortir de lui. Jésus était conscient de ce qu'il venait de se passer. Tout le monde dut être surpris de son arrêt. Personnellement, je vois cette scène comme un arrêt sur image. Un moment qui était suspendu dans le temps. Jésus avance, pressé de toutes parts dans la foule, il y a du bruit, et puis là, stop. C'est l'image que moi j'ai. Tout s'arrête. Jésus s'arrête, le monde s'arrête, le silence se fait. Et avez-vous déjà essayé de vous arrêter dans une foule en mouvement? Ben, c'est pas facile non plus. Difficile d'avancer, mais difficile de s'arrêter quand la foule avance. Mais Dieu contrôle tout. Et le flot d'une foule, au final, qui avance, ben, c'est pas plus dur pour lui de l'arrêter que d'écarter les eaux de la mer. Alors oui, je trouve qu'on est sur un moment suspendu, un moment où tout le monde se demande aussi ce qui se passe. Mais Jésus pose alors cette question, qui m'a touché? Pas d'une manière énervée, pas avec mécontentement, comme quelqu'un qui aurait été offensé ou on a pris quelque chose sans lui demander. Non, il le dit d'une manière calme, remplie de tendresse, remplie d'amour. Tout le monde a dû se regarder les uns les autres, gênés d'être celui qui aurait peut-être fait quelque chose de mal ou pour qui, voilà, pourquoi Jésus s'arrête comme ça. Et d'ailleurs, l'évangile de Luc nous dit que tous s'en défendaient. Mais Jésus voulait savoir, voulait voir celle qui avait fait cela. Donc il regardait autour de lui. Et bien sûr, je suis persuadé, je sais que Jésus savait justement qui avait fait ça. Il aurait sûrement pu le dire. Il n'avait pas besoin que quelqu'un l'informe de qui l'avait touché, parce que le Seigneur connaît toutes choses. La parole de Dieu nous dit que tous les actes secrets du péché sont connus de lui. Mais de la même manière, tous les actes secrets de la foi sont connus aussi du Seigneur et sont sous son œil. Alors Jésus aurait donc pu appeler directement cette femme, mais il attendait qu'elle se manifeste elle-même. Non pour la blâmer de son acte, mais vraiment pour louer et encourager sa foi. Pour qu'elle puisse témoigner aussi publiquement de sa foi. Parce que Jésus ne veut pas que ceux qui le suivent restent cachés. Ceux qui croient doivent être baptisés sur confession de leur foi. Celui qui croit dans son cœur doit le confesser de sa bouche. Alors Christ se retourna et dit « Qui a touché mes vêtements ?» En faisant cela, il a donné à cette femme l'occasion de témoigner. Les disciples ne comprirent pas cette question, personne ne comprenait, sauf, je pense, cette femme au fond d'elle-même. Une femme qui aurait pu essayer de s'enfuir, de s'en aller aussi discrètement qu'elle était arrivée, parce qu'elle avait obtenu ce qu'elle était venue chercher. Peut-être aussi une femme qui, en entendant cette question, eh bien, la flamme qui s'était allumée en elle, cette joie, ben, peut-être déjà était en train de s'éteindre un peu en se disant « Oula ! Il me cherche? Est-ce qu'il veut me reprendre ce que je lui ai pris ?» Elle était, le texte nous dit, un peu effrayée, tremblante, pendant que Jésus la cherchait, intimidée, sûrement aussi de se voir découverte, gênée à la pensée aussi qu'elle allait peut-être devoir avouer devant tout le monde, justement, son impureté, ce qu'elle a fait. Elle n'était pas censée être là, elle n'était pas censée l'avoir touchée. Mais Jésus ne voulait pas qu'elle parte comme cela. Il ne voulait pas que ça se termine juste avec un contact. Alors son regard se posa sur elle, un regard d'amour, de compassion, de bonté, de miséricorde. Probablement cette femme avait la tête un peu baissée, le regard vers le bas, comme un enfant qui fait presque une bêtise. Mais se voyant découverte, elle vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Elle tomba devant lui, et fut poussée à avouer ce qu'elle avait fait, mais aussi ce qu'il venait de lui arriver. Le bienfait qu'elle avait reçu. En s'humiliant devant son Seigneur, en se remettant à lui, elle lui dit toute la vérité. À lui, mais aussi donc devant toute la foule présente. Elle témoigna librement, publiquement, de ce miracle qui venait de se réaliser par Jésus. Et Jésus lui parle alors. Il la relève doucement, lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Si je prends le verset 22 dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, c'est marqué « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Les paroles de Jésus furent d'abord une consolation pour cette femme, un encouragement, une parole de joie dans son cœur. Là où elle était craintive, elle était effrayée, Jésus la rassure. Elle est rassurée parce qu'elle savait maintenant qu'elle était guérie. Le Christ, Jésus le disait par ses propres lèvres. Et donc ce qu'elle avait dans sa conscience, ce qu'elle ressentait en elle, c'était confirmé. Elle savait, elle avait maintenant le témoignage vraiment divin qui attestait que, avec son esprit, qu'elle était vraiment guérie, qu'elle était sauvée. Elle pouvait être rassurée aussi parce que Jésus n'était pas devenu impur. Ce qu'elle pouvait avoir comme crainte au préalable. Mais au contraire, même au lieu que l'impureté passe de cette femme à Jésus, le pouvoir de guérison coule de Jésus vers la femme. Et Jésus ne devient pas impur, mais la femme, elle, devint pure. Elle craignait d'être réprimandée pour être venue clandestinement, mais en fait, elle était encouragée. Et mieux encore, Jésus l'appelle sa fille. Il lui parle avec la tendresse d'un père. Comme il l'avait fait d'ailleurs aussi dans d'autres passages, notamment avec un paralytique, où il l'avait appelé, dans certaines traductions, on dit « on peut lire mon fils, mon enfant ». Donc notamment, ça se trouve dans Matthieu au chapitre 9. Oui, parce que immédiatement, par le salut qu'elle vient de recevoir, cette femme hérite de ce nom, elle est devenue enfant de Dieu. Première épître de Jean, verset 1, verset 12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc on parle de la parole de Dieu, de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Des paroles réconfortantes donc, mais qui contiennent aussi une promesse. On peut lire dans le texte « Va en paix ». Elle peut être dans la paix parce que son trouble, sa maladie ne l'affichera plus jamais. Sa guérison est définitive, elle est complète et parfaite. Mais Jésus lui parle aussi parce qu'il veut aussi qu'elle attribue bien sa délivrance à sa foi. Il veut mettre en évidence qu'elle soit vraiment convaincue que ce n'était pas juste l'attouchement d'un vêtement qui l'avait guéri. Les superstitions, les pouvoirs magiques, ça peut vite prendre de la place, non ? Le Seigneur veut que vraiment elle reconnaisse que c'est la parole puissante et miséricordieuse du Sauveur a répondu à sa foi. Ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit mon vêtement t'a guéri, ton toucher m'a guéri, t'a guéri, pardon, mais non, il a bien dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Pas de pouvoir magique, pas de superstition donc sur ce vêtement. Cette foi l'a sauvé, une foi qui n'a pas provoqué le miracle, qui ne l'a pas produit, mais une foi qui a reçu le miracle. Cette femme se confia en Christ, et il a répondu à ses besoins. En disant aussi « ta foi t'a sauvé », le Seigneur honore la foi de cette femme. Il lui dit en fait que on ne parle pas juste d'une guérison physique, que ça va plus loin que la guérison du corps. La délivrance accordée par Jésus concerna sa maladie, mais eut aussi pour effet le salut de son âme. Le pardon des péchés, l'œuvre de la grâce de Christ. Toutes les guérisons d'ailleurs opérées par la puissance, par l'amour du Seigneur, sur tant de malheureux, étaient d'ailleurs l'image, le moyen de leur délivrance aussi du péché et de la mort. C'était avec toutes ces guérisons, tous ces miracles aussi que le Seigneur a fait, qu'il s'est révélé à nous comme le Sauveur. Dans Ésaïe, au chapitre 38, les versets 16 et 17, nous dit « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Oui, cette femme avait eu la foi. Une foi qu'on pourrait qualifier un peu quand même d'imparfaite, parce qu'elle connaissait pas grand-chose de Christ. Elle était craintive même, donc on peut dire qu'elle avait des doutes peut-être aussi, alors qu'elle devait être remplie d'assurance. Mais c'était une foi réelle, et une foi suffisante pour être sauvée. Je vais prendre quelques citations de Charles Spurgeon. Il disait sur cela, il disait ceci, « Elle croyait vraiment en lui. Et si vous croyez en Christ, même si vous êtes dans l'ignorance sur mille choses, votre foi vous sauvera. Si vous croyez vraiment en Jésus, toutes vos erreurs à son sujet ne détruiront pas réellement son pouvoir de vous bénir, ni ne dresseront son cœur contre vous, ni ne détruiront la valeur de votre foi. Si je touche seulement ses vêtements, dit-elle, il est si plein de puissance qu'il me guérira. Oh, que nous ayons une telle confiance en Jésus pour être sûrs que si nous entrons en contact avec lui même par la plus petite promesse et la plus petite foi, il peut nous sauver et il nous sauvera. » Dans les Actes, chapitre 16, verset 31, on lit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Si petite que soit notre connaissance, votre connaissance, croyez en Jésus dans la mesure où vous le connaissez. Approchez-vous de Dieu comme vous le pouvez, même en ne commençant que par le bord de son vêtement comme le fit cette femme. Je vais poursuivre la citation de Charles Spurgeon qui disait aussi « Si vous dites « Je ferai confiance à l'agneau de Dieu » et que vous le faites réellement, alors vous êtes entré en contact avec lui et vous êtes sauvé. Oui, même si ce n'est qu'une simple prière, un soupir ou une larme de foi, vous l'avez réellement atteint et vous êtes guéri. Mais le contact de la foi doit être votre propre acte et votre propre action. Personne n'est sauvé dans son sommeil, personne ne peut prétendre avoir été transformé en une âme vivante s'il ne peut le prouver par un acte vivant de confiance. Il faut qu'il y ait cette foi qui s'approprie, et c'est ce que possédait cette femme. Alors, voilà, j'ai pris ce texte ce matin parce que c'est vrai que je l'avais lu, ça me travaillait dernièrement. On l'avait vu dans une série, hein, le The Chosen aussi. J'avais été frappé aussi par cette femme qui était allée jusqu'à Jésus, qui avait besoin désespérément de lui. Et de ce que j'ai pu vous partager ce matin, de ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous partager ce matin, j'aimerais que ce texte soit pour vous aussi encore un témoignage d'encouragement. Comme il l'a été d'ailleurs, je pense, pour Jaïrus d'ailleurs, parce que je l'ai cité au début, Jaïrus était venu pour demander au Seigneur de sauver sa fille, qui allait mourir, et il assiste en fait à ce miracle. Il est là, il assiste. Ben, ça a dû être un encouragement pour lui. Il a vu encore la puissance de Dieu. Il devait être, sa foi, elle a dû être encore renouvelée, renforcée. Ben, j'aimerais que ce texte soit aussi pour nous ce matin encore ceci. Un témoignage d'encouragement de la puissance de Dieu. Que ce texte soit aussi un rappel. Un rappel que Jésus s'arrête pour ceux qui s'approchent de lui. Pour prodiguer sa grâce. On peut penser parfois que tel ou tel problème nous empêche de nous approcher de Dieu, mais lui est toujours prêt à nous aider. Alors ne permettons jamais à nos craintes de constituer un obstacle entre lui et nous. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, peut-être vous dites « mais j'ai déjà fait ce pas, j'ai plus besoin de m'approcher de lui ». Eh bien non, vous avez toujours besoin de vous approcher de lui. N'arrêtez pas de le faire. Pas pour être sauvé à nouveau, parce que le salut est acquis une fois pour toutes. On l'a acquis, le sacrifice du Seigneur est parfait. Mais on a besoin de s'approcher pour ressentir encore cette puissance du Seigneur dans notre vie, pour le laisser encore œuvrer pleinement en nous, pour nous renouveler. Parce qu'en tant que chrétien, il peut aussi nous arriver de nous sentir déprimés, de nous sentir malheureux, plein de doutes, découragés. Notre frère, pendant qu'il parlait, à un moment, il a évoqué cela aussi. Eh bien, approchez-vous de Jésus à nouveau, et vous serez guéri, délivré. Vous retrouverez la force, la joie, la paix, la chaleur, la vigueur, l'enthousiasme, tout simplement la vie qui nous vient de Christ. Je vais encore prendre, j'ai encore deux citations de Charles Spurgeon. Ce merveilleux remède a un pouvoir illimité pour établir des rechutes aussi bien que pour guérir la première maladie. Mettez en pratique l'exemple de la femme et voyez si Jésus n'est pas toujours le même. Mais si quelqu'un aussi ce matin est ici présent et qu'il craint de ne pas être encore enfant de Dieu, qui n'a pas fait ce pas pour s'approcher de Jésus, ben je veux l'inviter à le faire ce matin, à s'approcher de Christ, à venir toucher encore une fois le vêtement, ne serait-ce que le vêtement de notre Rédempteur. Et alors, cette personne sera guérie, elle sera sauvée. Quelle que soit la transgression, quel que soit le péché, peut-être, dont elle s'est rendue coupable. Eh bien, vraiment, je vais inviter cette personne à entrer en contact avec l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dont le sang a coulé pour moi, pour vous, sur la croix. Et alors, vous serez pardonné. Et si vous êtes venu à lui, alors soyez rassurés, soyez heureux, parce que je peux vous redire ces paroles de Jésus, « Ta foi t'a sauvé ». Dernière citation, toujours du même. Un contact est une chose très simple, mais ne doutez pas, par conséquent, de sa valeur. Alors oui, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Christ, parce qu'en lui est toute chose, en lui vous aurez la plénitude, en lui vous aurez le salut, vous aurez la vie. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.